Bonjour à toutes et à tous, eh bien c'est l'heure de l'Opus Festival depuis l'hôtel Le Maréchal de Colmar, générique.
Opus Festival International de Musique de Colmar, hommage à Claudio Abbado. Une émission d'Accent 4 avec le soutien du CICS, d'Arpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.
Aujourd'hui, cinquième opus du Festival de Colmar, enregistré, comme vous le savez, à l'hôtel Le Maréchal. Et en ce lundi 8 juillet, j'ai le plaisir de recevoir la violoniste Sarah Nemtanou et le violoniste Pierre Fouchandré, que j'avais déjà reçu l'année passée. Bonjour à vous deux. Alors,
bonjour.
Où sera diffusée cette émission? Vous serez avec vos deux autres complices du Quatuor Strada, Lisberto Alto et François Salk violoncelle à la Chapelle Saint-Pierre, et vous jouerez Brahms, Schubert et Beethoven. Puis à 21h, Grigory Sokolov donnera son traditionnel concert colmarien. Il interprétera Beethoven et Brahms. Eh bien, de Beethoven, voici un extrait des Créatures de Prométhée, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, placé sous la baguette de Claudio Abbado.
Thank you.
Deux courts extraits des créatures de Prométhée de Beethoven sous la direction de Claudio Abbado. Est-ce que vous avez eu l'occasion, Sarah, Pierre, de jouer sous sa direction dans un orchestre de jeunes ?
Alors jamais. J'ai peut-être failli, mais j'ai connu le Mahler Chamber Orchestra à une période de ma vie qu'il a fondé. Au départ, c'était un orchestre vraiment de jeunes et qui a tellement bien fonctionné, qui a été fondé il y a une vingtaine d'années et qui a tellement bien marché que ces jeunes, ces mêmes jeunes qui sont maintenant de ma génération aujourd'hui, ont décidé de pérenniser voilà, cet ensemble. Et du coup, c'est devenu le Mahler Chamber Orchestra officiel. Et malheureusement, non, j'ai jamais eu l'occasion. J'aurais pu donner mon avis réel sur cette personne, mais tant que j'ai pas été dirigée par un chef d'orchestre, je peux pas trop encore vraiment donner mon avis, parce qu'il y a le côté pile et face, vraiment. Donc c'est un travail vraiment très particulier. Jamais eu cette chance.
Et même pas d'avis en tant qu'auditrice d'enregistrement ?
Si, bien sûr, en tant qu'auditrice, c'est vrai, parce que souvent dans mes travaux de réparation, je dois écouter voilà, des versions. Notamment, il y a une version de l'opéra Othello. Bref, c'est un autre opéra de Verdi, son dernier opéra. Là, ça me revient
Falstaff.
Pas. Falstaff, voilà, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est une version qui m'a marquée parce que c'est vraiment un chef qui aime la rondeur de son, qui n'aime jamais les choses acérées, agressives. Et il est tout le temps dans un but de chanter. Alors, c'est vrai qu'en opéra, c'est encore plus merveilleux parce que déjà que ça chante encore plus. Mais c'est vrai que dans le symphonique, ça, quand même, ça a cette particularité-là d'être vraiment très chanté, quoi. Toutes ces versions sont lumineuses, voilà. Mais après, moi, j'aime bien quand ça claque et que ça cogne un petit peu aussi. Ça manque pour moi peut-être un peu de ça parfois, voilà, si j'avais quelque chose à dire, parce que voilà, faut se mettre un truc sous la dent. Hein. Mais en gros, quand même, énorme respect, bien sûr.
Et vous, Pierre ?
Eh ben, moi non plus, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. J'ai aussi fait un tour au Mahler Chamber Orchestra comme ça, mais j'ai jamais pu voilà. Et puis moi, quand j'écoute alors moi j'ai une expérience d'orchestre très très minime par rapport à celle de Sarah, mais moi-même dans ma vie, enfin j'ai fait peu d'orchestre. Alors du coup c'est toujours un peu difficile pour moi parce que le chef c'est quand même toujours celui qu'on n'entend pas. Donc c'est un mélange entre les orchestres, la qualité des enregistrements qu'on a et la proposition du chef. C'est un peu difficile pour moi de démêler ce qui vient du chef ou ce qui vient de l'orchestre ou de la prise de son ou de la salle dans laquelle ça a été enregistré. Voilà, sauf quelques grands maîtres qui ont des partis pris très forts, comme Celibidache dont on parlait hors micro, qui lui a cette particularité de d'étendre le temps au maximum. Donc ce rapport au temps est très fort et donc marque fort ses enregistrements. Ce d'Abbado, j'ai l'impression que c'est plus un consensus musical. Enfin, j'ai du mal un peu à savoir ce qui vient de lui ou pas, parce que j'ai pas eu la chance de le connaître. Mais voilà, bien sûr, beaucoup d'admiration pour toute sa carrière et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a produit. C'est incroyable.
Celibidache, qui a été le patron de l'Orchestre National de
très
France.
Très peu de temps.
Très peu de temps, deux ans ou deux ou trois ans, pas plus.
Pas plus, ouais.
Vous, Sarah, vous êtes super soliste violon solo de l'Orchestre National de France depuis 1994. Votre sœur...
Non, depuis 2002.
Oui, 2002, pardon.
Pardon, oui, parce que j'avais 13 ans en 1994.
Excusez-moi, je vous ai vieilli. Votre sœur, Déborah, est violon solo super soliste de l'Orchestre de Chambre de Paris. Et votre papa occupe les mêmes fonctions à l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine.
Oui.
Est-ce que le violon a été un choix naturel pour vous et votre sœur, parce que le papa était violoniste ?
Absolument, oui, c'est vrai que... On avait une maman aussi qui chantait, qui était chanteuse lyrique, et disons que ça chantait à la maison. Donc c'est vrai que quand on est enfant, on a besoin d'un support, on chante évidemment, mais on a aussi envie de pouvoir formuler les choses avec un objet, donc de pouvoir le toucher et exprimer à travers l'objet quelque chose. Et c'est vrai que c'est venu très 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 vite, très naturellement, et puis les bonnes relations avec le papa, une éducation, une enfance plutôt vraiment paisible quand on a la chance de pouvoir baigner dans ce milieu de la musique et qu'on écoute ça et qu'on suit un peu ses parents à droite et à gauche, c'est vraiment une aubaine, quoi. C'est que des souvenirs magnifiques et on a envie de faire la même chose. Donc on reproduit en tant qu'enfant par imitation, on a envie de faire ce que font ses parents. Et voilà, ça s'est très vite avéré comme une chose évidente, le violon. Et avec ma sœur, qui a seulement 2 ans de moins que moi, on s'est tout de suite vraiment soutenu l'une l'autre, on a voulu jouer ensemble. On peut dire, n'est-ce pas, Pierre, que la musique de chambre commence avec le duo. Donc, très tôt, on a dû s'écouter l'une et l'autre. Et c'est vrai que ça forme, ça forge, ça éclaire vraiment pour la suite. Donc, oui, c'était une évidence. Et maintenant, j'essaye aussi de rendre hommage un peu à ma mère aussi, d'essayer de le chanter le plus possible avec mon violon. Parce qu'on est un instrument mélodique, mais c'est vrai que le quatuor permet ce plaisir de l'harmonie, quoi. Entre cordes, c'est super.
Ouais. On va en parler, bien sûr. Et vous avez enregistré avec votre sœur, notamment les duos de Bartok.
Oui, absolument. On a fait 4-5 disques, là. C'est pas le dernier des disques. Là, le dernier sorti, c'est les concertos pour deux violons de Martineau. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose. On a commencé à enregistrer il y a 5 ans et il y a 5 disques qui sont sortis. On a plein d'autres projets. C'est vrai qu'on a voulu d'abord établir chacune un petit peu nos parcours, s'ancrer chacune dans nos envies, comment on peut appeler ça, bref. Donc voilà, ça fait vers 30 ans, on s'est dit, allez, pourquoi pas allier nos forces. C'est ce que fait Pierre aussi. Avec son frère Théo, et ouais, c'est des chances, quoi, de pouvoir partager la musique avec sa famille.
Vous aviez des parents musiciens, Pierre ?
Non, pas du tout. J'ai un peu ouvert la voie parce que j'ai 9 ans d'écart avec mon frère, je suis 9 ans son aîné, et puis j'ai une sœur aussi avec qui j'ai 13 ans d'écart. Mes parents n'étaient pas musiciens, mais la maîtresse d'école jouait du violon. Alors, j'avais envie de faire comme elle. Mes parents pensaient que c'était un caprice, mais comme elle jouait toutes les semaines, le caprice a perduré. Ils ont fini par céder. Et puis, j'ai eu une rencontre fantastique avec mon premier professeur de violon, qui est devenu comme mon père de la musique. Et puis, voilà, les choses se sont... Voilà, faites comme ça. Et puis après, mon frère, lui, voulait jouer avec moi, en fait. C'est comme ça qu'il a fait du piano. Et puis... Et puis qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça crée des liens très spéciaux, hein, quand même, hein, de grandir avec la même idée de la musique. Enfin, c'est ce que tu dois ressentir avec ta sœur. C'est vraiment très, très, très particulier.
Et vous, Sarah, vous avez eu votre premier professeur, c'était votre papa.
Oui.
Et j'ai appris en lisant votre bio que vous aviez eu le père de Teddy Papavrami comme professeur.
Oui.
Ça devait être redoutable, parce que lorsque Teddy en parle dans son autobiographie, on n'a pas forcément envie d'aller lui serrer la main au papa.
Ah oui, je ne pensais pas, je n'ai pas lu son autobiographie, d'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment l'apprentissage un peu à la manière de l'Est, quoi. À la fois très sévère, exigeant dans la technique, dans l'apprentissage des gammes obligatoires, d'exercices, une heure d'exercice avant de jouer quoi que ce soit, d'intéressant, vous voyez. Donc c'est vrai que, je dirais que en tout cas dans mon équilibre, dans ce qui s'est passé, dans ma vie à moi, dans mon exemple, c'est ça que je voulais dire, ça a été plutôt quand même... quelque chose de positif, parce que ça m'a donné une rigueur dans ma façon de travailler, dans l'écoute, voilà, une rigueur vraiment technique, une conscience que la technique est obligatoire pour aboutir à des choses musicales plus tard. Donc c'était plutôt quelque chose de positif. Je retiens des bonnes choses, vraiment. Il était très sévère, effectivement, et il faisait peur aux enfants. C'était pas la méthode souple d'aujourd'hui, c'était pas Montessori, quoi. C'est l'antithèse. Excusez-moi, ça m'est venu comme ça me fait rire moi-même. Donc, non, mais voilà. À chaque expérience, son bénéfice, et puis avec l'équilibre évidemment du papa et de la maman derrière, on y allait, on n'était pas... Il avait fondé une école, hein, le Centre Pierre Rode, qui était lui-même un pédagogue et qui a écrit des études pour les élèves et tout, donc ça montrait bien déjà son angle de vue. Mais voilà, le Centre Pierre Rode à Gradignan, près de Bordeaux, où on jouait chaque semaine en public, on investissait les églises de la région. C'était quand même... J'ai commencé à faire des concerts à 8 ans chaque semaine. C'est quand même pas donné à tout le monde. C'est génial de pouvoir faire ça. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens presque chez moi sur scène. Donc c'est... Voilà, j'en tire vraiment... j'essaie d'en tirer aujourd'hui que les avantages.
Alors aujourd'hui, vous êtes violon solo de l'Orchestre National de France. Vos directeurs musicaux ont été Courte Mazour, Daniel Egatti et depuis 2017, Emmanuel Krivine. Courte Mazour, vous avez choisi pour le poste de violon solo et je ne résiste pas au plaisir de lire ce qu'il a écrit. Ma première rencontre avec Sarah Nemtanou fut pour moi une totale surprise. Jeune, fraîche et peu conventionnelle, mais également sérieuse et expérimentée malgré sa jeunesse, elle auditionnait pour le poste de violon solo de l'Orchestre National de France. Elle avait 21 ans et dans le jury, de nombreux musiciens se demandaient si elle serait capable d'assurer la direction artistique, et spirituelle requise pour ce poste, ce qu'ils mettaient en doute. Pour moi, elle était faite pour cela et elle était celle qu'il fallait pour ce poste.
Signé
Courte Mazour.
Il avait bien senti la chose, hein, quand même. Hein. Il avait raison. Parce que déjà, mon père est violon solo lui-même de l'Orchestre de Bordeaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je le suivais. J'étais en horaire aménagé toute mon enfance. Donc, non pas un poil, mais un palmier dans la main en ce qui concerne le travail. Je suis plutôt de ceux qui aiment profiter des bonnes choses.
Malgré les années Robert Papavrami.
Oui, absolument. C'est plus fort que tout. Et donc j'avais besoin d'être dans un contexte de travail pour travailler mon violon. Quoi. Je ne pouvais pas travailler chez moi dans ma chambre. J'étais forcément distraite. Quoi. Donc je suivais mon père. J'allais aux répétitions avec lui, là où il travaillait, salle Franklin à Bordeaux. Et puis je trouvais un petit studio et puis je travaillais pendant qu'il répétait. Donc cette vie d'orchestre, ça m'a tout de suite plu. C'était comme un petit village qui se réunissait pour travailler ensemble, faire de la musique ensemble, avec un super répertoire aussi. Donc c'est tout de suite quelque chose qui m'a attirée et que j'ai adoré. Donc je crois que vraiment ce que dit Courte Mazour, c'est qu'il a senti ça avec son expérience ou voilà, son instinct aussi. C'était quelqu'un qui sentait vraiment les choses et les gens. Et donc voilà, je pense qu'il a senti que j'aimais ça. Avant
oui, mais il
tout.
Faut quelque chose de plus pour occuper le poste par rapport au tout.
Oui, il faut. Ah, j'allais dire encore un gros mot, mais il faut pas
allez-y,
que je le dise. Non, il faut de l'assurance, quoi. Faut montrer qu'on a envie, il faut de la spontanéité, et puis il faut montrer. Enfin, faut ouais. Une certaine forme de montrer. Enfin, je pense que j'ai pas peur, quoi. Ça se voit que j'ai pas peur, que j'y vais, que voilà. Donc
faut ça. Aussi un énorme clair. Niveau au moment du concours, hein. C'est-à-dire que faut quand même jouer très 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 bien.
Oui.
En fait. Non, mais il faut.
Plus que très bien.
Oui, voilà.
Non, mais je pense qu'il a senti que j'avais un jeu ouvert qui faisait que les gens allaient peut-être avoir envie de jouer avec moi et être d'accord. En tout cas, ça compte dans le jeu. Et dans... Voilà, après, oui, effectivement, faut un certain niveau, c'est sûr, mais je pense que ça fait pas tout parce qu'il y avait des gens très très forts aussi au concours et je pense que ça joue quand même cette ce qu'on dégage quoi cette sensation cette confiance voilà ah oui tiens on va lui faire confiance on va jouer avec elle même s'il y a une petite note à côté ou deux voilà c'est ça me représente aussi tu voyais donc mais voilà donc je suis fière qu'il ait senti ça tout de suite et qu'il m'ait permis de vivre cette expérience quoi de bien gagner ma vie déjà à mi-temps de pouvoir faire ce métier génial aborder ce répertoire et puis pouvoir faire du quatuor à cordes avec les gens que j'aime voilà en toute sérénité
On peut dire qu'il y avait une belle relation d'amour entre Courte Mazour et le musicien du National.
Ah oui, vraiment, je crois qu'il a... Mais les musiciens du National sortaient d'une relation de 15 ans aussi avec...
Charles Dutoit.
Et puis c'est vrai que quand on est 15 ans avec un directeur musical, c'est comme au foot, hein, quand on est avec un entraîneur...
Qu'on
a gagné la Coupe du Monde, ça va, on a envie de changer, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais j'aime bien allier la... faire des parallélismes entre la musique et le sport, c'est très important parce que c'est une discipline et en même temps il faut se faire plaisir et en même temps on est dans des conditions quand on joue à chaque fois différentes suivant les concerts, les voilà. Donc oui, je pense que l'orchestre avait besoin de ce changement et en plus voilà que ce soit avec Courte Mazour, toute son histoire, il revenait de New York et il a ce carnet d'adresses, cette aura, il était là pour finir un petit peu, je pense aussi ça. Sa vie musicale, il savait, il arrivait à 75 ans, donc il n'avait plus rien à perdre, et du coup il a donné le meilleur, il a donné des idées, et ça c'est, voilà, c'est assez magique, quoi, pour un ensemble, pour un petit village, quoi, c'est...
Alors, il vous avait choisi pour être sa soliste du concerto pour violon de Tchaïkovski, on écoute le deuxième mouvement. Voilà, le mouvement lent du concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski, Sarah Nemtanou, violon solo et soliste de ce concerto, l'Orchestre National de France, dirigé par Kurt Mazur, un enregistrement live du 25 avril 2012. Venons-en au concert de ce soir à 18h15, où vous jouerez Brahms, Schubert et Webern avec vos deux autres complices, vos trois autres complices, Sarah, Pierre, Fouchandré, violoniste, François Salk, altiste, violoncelliste et Lisberto, altiste. Je crois que vous vous connaissez depuis très longtemps, vous.
Oui, avec Pierre et Lise, nous nous connaissons depuis 20 ans maintenant. J'ai connu Pierre quand il avait 13 ans. Et on était chez le même professeur Gérard Poulet au conservatoire. Et voilà, il débarquait de Nice avec sa chevelure ondulée.
Ouais. J'étais de la même promo que ta sœur, Déborah.
Oui. Voilà.
On est rentrés en même temps. Et puis, bah oui, c'était une rencontre. Alors, on s'est tout de suite très bien entendu. Hein. Ouais. Et puis, Lise, c'est la première altiste au conservatoire avec qui j'ai fait de la musique de chambre. Donc c'est pareil, j'ai joué avec elle, j'avais 13 ans, elle en avait 15. Et puis Lise et Sarah étaient très amies aussi. Enfin bon, du coup, c'est vrai que ça fait bateau de dire que le quatuor, c'est une histoire d'amitié. Mais enfin là, quand même, c'est vraiment le cas, quoi.
On peut pas faire autrement
non,
que...
Ouais, que de le reconnaître. Oui. Ouais. 20 ans, depuis 20 ans, les études, la vie, enfin... Ouais, c'est marrant.
Et puis vous aviez un formidable professeur, Gérard Poulet, formidable violoniste.
Ouais, alors moi je suis resté 3 mois dans sa classe parce que je l'ai pas trouvé si formidable que ça.
D'accord. Bon.
Mais bon, chacun son expérience avec ça. Hein.
Absolument. Ouais. C'est vrai que non, mais c'est vrai que c'était quelqu'un. Gérard Poulet, c'est mon père qui attachait énormément d'importance, voilà, à notre futur, à moi et à ma sœur. Voilà, effectivement, il pensait qu'on allait passer par les classes du CNSM de Paris et la chose la plus importante à ses yeux, c'était l'investissement du professeur et sa régularité malgré une carrière, quoi. Et c'est vrai que Gérard Poulet, il mangeait pas toute la journée pour pouvoir assurer ses cours et il était quand même passionné par l'enseignement et c'est vrai qu'il était là pour ses élèves. En tout cas, il était présent et quand il n'était pas, il rattrapait les cours lui-même. Il se faisait jamais remplacer. Et c'est vrai que c'est quand même un gage de passion, quoi, pour l'enseignement. Mais après, dans quel but, pour lui-même ou pour les... Voilà, ça, c'est autre chose. Après, on le ressent tous différemment. En tout cas, moi, j'ai appris vraiment pas mal de choses avec lui. Et voilà, après, au conservatoire, c'est vrai qu'on fait des rencontres, d'autres rencontres. J'ai aussi Pierre-Laurent Aymard en musique de chambre, Jean Mouillère. C'est vrai que, voilà, j'ai appris avec tout ce monde-là, en faisant les sessions d'orchestre aussi, avec... voilà, c'était pas rien, quoi. C'est un ensemble de choses. Après, il y a le violon, effectivement, et puis il y a cet ensemble de choses que Pierre a très vite compris aussi, quoi, avec la musique de chambre, avec même la composition, je me souviens. Pierre compose, hein,
non, un petit peu.
Si, il a vraiment tous les talents. Donc,
non,
mais vraiment, voilà, c'est inspirant. Enfin, être dans un tel conservatoire, c'est pas pour profiter que de son professeur de violon. Voilà, donc c'est profiter de tout un tas de choses et voilà, du coup, ça, c'est notre amitié et notre entente musicale est restée aussi.
Et cette aventure du quatuor Strada. Alors, pourquoi ce nom, Strada?
Strada, c'est la voie, le chemin. Disons que, voilà, sur une... En tout cas, c'est une voie un peu parallèle, parce qu'on a tous beaucoup d'activités individuellement, mais c'est vraiment des retrouvailles fortes autour de compositeurs et d'une formation très, très spéciale pour nous. Hein. Bien sûr, on a commencé avec Beethoven, qui était un Graal, un Everest musical, avec ses derniers quatuors. Et puis là, on traverse une grande période Brahms, où on a enregistré d'ailleurs les 3 quatuors à cordes qui vont sortir prochainement, sous le label Berry Chords. Et donc voilà, c'est vraiment une sorte de laboratoire où on se laisse porter avec des compositeurs qui nous sont chers, et puis des périodes où on prend comme ça pour travailler et se faire plaisir, quoi.
Vous arrivez à trouver du temps assez long pour travailler ensemble ?
Oui, puis je pense qu'en plus, on se branche très vite les uns aux autres, parce que même si on ne travaille pas de façon... Comme un quatuor traditionnel à faire 80 dates par an et à travailler toutes les semaines, ce n'est pas notre cas, mais on se connaît tellement et depuis tellement d'années, musicalement aussi, parce qu'on a fait d'autres choses que le quatuor. Sarah a beaucoup joué avec Lise, il m'est arrivé de jouer avec Sarah en dehors du quatuor, bien sûr, et... avec François, je joue beaucoup aussi en trio, donc on se branche très très vite les uns aux autres. C'est très intense en fait.
Oui, et voilà, c'est vrai que c'est particulier, mais je pense que quand on se voit régulièrement, avec nos expériences et nos métiers, on a, je pense, trouvé notre manière de fonctionner aussi, qui est celle-là. Et en fait, quand on se retrouve, même après une période un peu plus longue, on retrouve quand même assez rapidement ces automatismes, quoi. C'est comme, voilà, on retrouve un objet, une voiture, hein, on a un peu... Voilà, ça se perd pas, quoi. Ça se perd pas du tout. Après, le répertoire, on apprend à se connaître ensuite un peu plus après le répertoire, mais quand on s'est mis d'accord sur le langage Brahms, le langage Beethoven, on le retrouve tout de suite, oui. Quoi. Et donc, c'est quelque chose d'assez fascinant, quoi, et d'enrichissant et de... Voilà, de passionnant, parce que on apporte chacun un petit peu notre expérience, moi un petit peu celle de l'orchestre, François celle de l'enseignement, de la pédagogie, à force d'avoir autant joué lui-même dans un autre quatuor, les erreurs à faire, à ne pas faire. Donc c'est vraiment, en fait, une sorte de puits, voilà, où on a mille expériences. Et puis, ce qui est plus compliqué, par contre, c'est de faire le tri. Parce que c'est vrai qu'en répétition, voilà, on peut parfois débattre. Mais, voilà, c'est différent. Et c'est pas forcément ce à quoi on s'attend, voilà, tous les jours. Mais c'est autre chose, mais c'est quand même du quatuor, mais d'une autre manière, sous un autre angle.
Alors ces quatuors, ce sont les derniers de Beethoven. Comment on les aborde alors que les références ne manquent pas ?
Oui, alors les références sont aussi parfois pétries de tradition. Et bon, je crois qu'on... Vraiment, chez Beethoven, d'aborder ces textes un petit peu comme on aborderait de la musique contemporaine, je pense que c'est un bon angle de travail, parce qu'il faut essayer de repartir un peu d'une page blanche et simplement d'essayer de... C'est un jeu de pistes, quoi, de comprendre les codes, j'ai envie de dire les codes vraiment, et puis de s'y tenir, quoi. Alors on a beaucoup de sources maintenant écrites quand même, on comprend un petit peu mieux les idées des tempi qu'il voulait, c'était peut-être pas le cas dans les quatuors qui abordaient cette musique il y a 40 ans, ils n'avaient peut-être pas autant d'enseignements que ce que l'histoire a pu nous apprendre, et puis dans le mélange des sons, dans l'esthétique aussi qui a un peu évolué, avec des utilisations peut-être un petit peu moins intempestives de vibrato, un calibrage des vitesses d'archet, etc. Donc c'est vraiment une histoire de structure musicale, d'esthétique musicale, et puis de fondre les sons. Je pense que la pratique de la musique de chambre a énormément évolué au cours de ces dernières années, parce qu'elle est devenue bien plus valorisée qu'à une certaine époque. Mais donc, je pense que simplement, il suffit de respecter ce qu'on voit de marqué sur la partition en essayant de faire du mieux possible avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà. Et ça fait forcément un résultat différent qu'il y a quelques années. Alors, même si moi, je suis passionné par les vieux enregistrements, et que je trouve qu'on a aussi perdu quelque chose. Peut-être c'est plus aseptisé ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est un peu dommage, mais voilà. D'essayer de faire un consensus autour de tout ce que je viens de dire. C'est un peu comme ça qu'on essaie d'aborder cette musique.
Rien n'empêche d'écouter le quatuor Busch et puis le quatuor Strada.
Ouais, voilà. Ah non, voilà. Il faut entendre les deux, absolument.
Ouais. On écoute un extrait du La mineur opus 132, et après je vous libère.
Thank you.
Finale du quatuor à cordes en la mineure opus 132 de Beethoven par le quatuor Strada, Sarah Demtanou, Pierre Fouchandré, violon, François Salk, violoncelle, Élise Berthaud, alto. C'est un enregistrement live. On arrive au terme de cette émission. Vos prochains concerts, ou c'est un peu de vacances pour vous deux?
Non, là c'est beaucoup de concerts pendant l'été, là c'est jusqu'à fin août, début septembre, ça va être c'est la route de tous les festivals français. On va se retrouver avec Sarah d'ailleurs dans un festival très sympathique à l'île de Ré. Mais bon, il y a beaucoup de concerts à venir.
Hein. Oui, donc avec le quatuor Strada sur l'île de Ré le 18 ou le 17 juillet, et ensuite en duo oui, tous les deux. Au festival de à Lisieux, Pays d'Auge, en duo, parce que voilà, pour des raisons de deuxième enfant, ma sœur voilà, ne peut pas assurer le concert parce que voilà.
J'adore quand elles sont enceintes parce que du coup, moi j'en profite quoi.
Oui.
Je joue avec Déborah.
Oui, c'est vrai, c'est soit l'une soit l'autre. On va se calmer là maintenant. Et oui, non, moi j'ai
ma carrière va s'en ressentir.
Oui. Non, mais c'est... Oui, l'été, c'est vraiment le moment de tous les concerts, quoi, tous les festivals.
Beaucoup,
et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais. Beaucoup de programmes, beaucoup de partitions à emmener. Et non, mais c'est un plaisir. Voilà, c'est génial, quoi. On passe d'un endroit à un autre. On voit comment les festivals fonctionnent, comment ça se passe de l'un à l'autre. L'un vachement subventionné, l'autre pas du tout. Mmh. Et du public, voilà, c'est... Mmh. Aux bénévoles, c'est intéressant. C'est une aventure, quoi, humaine. Et c'est...
Oui.
C'est ouais, je trouve ça assez... intéressant de voir comment ça se passe d'une région à l'autre aussi. Ça apprend beaucoup de choses et... Et puis voilà, c'est...
De voir toutes ces équipes, c'est vrai, qui travaillent et qui sont en fait très 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 passionnées par la musique, qui font vivre la musique à travers les régions, ça c'est quand même... C'est vrai que l'été, on le voit, on le sent, et c'est très nourrissant, parce que quelquefois, on se demande un peu ce qu'on fait là, quand on défend les derniers quatuors de Beethoven, et puis qu'on voit le monde, comme il évolue. Bon, ben, en fait, l'été, on rencontre plein de gens qui sont tout aussi passionnés que nous à défendre la musique d'une autre manière...
À l'aimer tout simplement.
Voilà.
Voilà.
Et qui sont heureux de vous entendre.
Voilà.
Et dans tous ces festivals, il n'y a pas une radio à chaque festival.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc nous, partenaires du
festival. Nous vous félicitons.
Merci. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous avez beaucoup d'humour et ça apporte de la fraîcheur. Et
merci.
Ça nous fait énormément plaisir. On arrive au terme de cette émission. L'invité de demain sera le chef d'orchestre André Boïko. Merci à Maxime d'avoir réalisé cette émission. À demain, bon festival.
Merci.
Merci.
Opus, Festival international de musique de Colmar. Hommage à Claudio Abbado. Une émission d'Accent 4 avec le soutien du CIC Est, d'Arpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.